Bienvenue en décembre, la semaine dernière et le mois de novembre se sont achevés avec le Black Friday. Eh bien ici sur MDM, le temps moins de cette émission, c'est le Green Monday, on va l'appeler comme ça. Dans le rôle du guide et du défricheur creusant son sillon, j'accueille Rudy Dupont. Rudy, bonjour. Bonjour le R.
Bonjour Monsieur Hillcock, bonjour à notre invité qui est Monsieur Florian Rebricard, qui va nous partager sa passion pour les êtres vivants, les magnifiques êtres vivants que sont les arbres, entre autres. On va dire, on va parler de la biodiversité en général.
Bonjour Florian.
Bonjour, merci beaucoup.
Bienvenue à vous dans le studio d'avoir accepté l'invitation de Rudy Dupont. Rudy, je suis très content de vous retrouver en vrai, parce que ces derniers temps, c'est surtout à l'écran que je vous ai vu, via des stories sur vos réseaux sociaux, sur vos initiatives pédagogiques. Okay. Vous dépoussiérez le style, enfin le registre.
Effectivement, que ce soit sur Facebook et sur Instagram, j'essaye de communiquer sur mes actions de médiation sociale autour de l'agriculture régénérative. Donc voilà, hein, je suis en partenariat avec des établissements du ministère de la Justice notamment. Et on travaille avec des jeunes sur nos parcelles expérimentales au Jardin de Nonnerre. Donc dédicace à Monsieur Le Baïf, le directeur des Jardins de Nonnerre, pour voilà, tout ce qu'il fait. En tout cas, le gros coup de main qu'il me donne pour me permettre de mettre ce projet en œuvre.
Et ça vous permet de faire de chouettes rencontres pour causer agroécologie et gestion de la matière organique. Et à Bretagne de Marsan, où Florian, vous êtes maraîcher, le jardin d'Ortus. Petite parcelle, hein, je crois. Enfin, à partir de quand? Une grande parcelle, je ne sais pas. C'est 2000 mètres carrés?
2000 mètres carrés, oui. Ouvert en culture. Après, ça s'intègre dans un espace qui est un peu plus grand. Il y a 1,2 hectare de prairie et 1,3 hectare de bois.
D'où l'appellation, quand on parle de système, vous allez m'expliquer, hein, de système agro-silvo-pastoral.
Oui. Bah, du coup, pour moi... On revient un petit peu à des systèmes qu'on pratiquait avant, où l'agriculture, les arbres et les animaux forment un complexe très intéressant pour développer la biodiversité, l'amendement, et voilà. J'ai du mal à envisager un système agricole sans ces trois éléments, en tout cas.
Et est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur le nom, du coup, de ton jardin, hein, parce que c'est bien les jardins d'Ortus. Ortus, en latin, on est sur la définition de jardin. Enfin, est-ce que tu peux nous expliquer
du coup l'origine du temps de Rome et du latin, enfin,
romantique,
même au Moyen Âge, il y avait trois systèmes agricoles. Il y avait la forêt, Silva, qui a dérivé sur le nom sylviculture. Et
okay. Ouais.
Il y avait la guerre, qui est le champ, qui est l'espace cultivé, qui était souvent cultivé en commun. Et après, il y avait l'ortus, et ça désignait le petit lieu clos qui était à usage individuel et dans lequel il y avait de la production près de la maison. Et c'est aussi un lieu où on se baladait, on flânait, et ça a donné l'horticulture.
Alors Florian, je sais que tu as dispensé une formation autour de l'arbre avec l'association de l'ADR des Landes. Est-ce que tu peux du coup nous en dire un peu plus sur le contenu, sur qu'est-ce qui s'est passé, ton retour d'expérience?
Oui, donc c'était mercredi dernier à Bretagne-de-Marsan et on a fait une matinée théorique avec Hugues de Failly qui travaille pour Arbres et Agriculture. On a fait une après-midi sur ma parcelle, sur le site pratique, et ceci autour des trognes et des haies plessées.
Alors, j'ai découvert, hein, j'ai creusé un petit peu avant de vous recevoir, Florian, les trognes, c'est une technique d'exploitation de l'arbre, c'est ça?
Ouais, c'est une conduite de taille, où on vient récolter régulièrement l'arbre, et on laisse le tronc, et puis il repousse, et puis on peut à nouveau récolter du bois, et il repousse, et puis ainsi de suite.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de la gestion de la matière organique autour de l'arbre? Je te pose cette question parce que ça serait bien de pouvoir donner, je pense, quelques billes aux auditrices et aux auditeurs sur la gestion de la matière organique par rapport à l'arbre, par exemple aux tailles, et qu'est-ce qu'on peut faire avec ce bois qui est récupéré, notamment pour aller vers de l'aggradation, donc vraiment... améliorer la qualité du sol qu'on peut avoir à la maison.
Puis on ne l'a pas précisé, hein, ça tombe sous le sens, c'est que vous n'utilisez pas de fertilisant extérieur, on va dire.
Non, je récupère du fumier au centre équestre d'à côté, et après tous les autres intrants, ils sont produits sur ma parcelle avec les arbres qui sont autour des espaces de culture. Donc, pour revenir sur l'intérêt des arbres,
pour faire de la fertilité,
c'est assez vaste, mais il faut savoir que c'est quasiment l'arbre qui construit le sol. que ce soit par les racines qui structurent le sol ou les feuilles qui tombent par terre et qui se décomposent pour finir sol. Et en fait, tout le bois même qui se renouvelle dans l'arbre naturellement ou avec des tailles retombe au sol et produit de la fertilité.
Donc, conseil pour des gens qui ont peut-être des arbres chez eux dans leur jardin et qui peut-être utilisent mal le potentiel, mais ne...
Oui, ils ne sont pas au courant, tout simplement.
Ils ne sont peut-être pas au courant ou n'ont pas forcément des bonnes pratiques. Qu'est-ce qui peut être pratiqué de façon simple, sans trop de danger, pour favoriser le développement de la biodiversité à nos échelles respectives?
Alors, peut-être déjà garder les feuilles mortes sur son terrain.
Ok.
Ne pas les exporter à l'extérieur.
Ouais.
Alors, soit on peut les laisser étaler, soit on peut faire un tas dans un coin qui se décompose, on peut le mettre au pied des végétaux. Pareil pour tous les résidus de taille. En termes d'intérêt biologique, c'est possible de les entasser. Et c'est un habitat pour tout un tas d'oiseaux, un refuge pour des micro-mammifères, des hérissons. Et puis, moi, j'aimerais insister sur le fait de laisser du bois mort un petit peu dans les jardins, dans les villes, dans les écosystèmes. Actuellement, il y a tout un cortège écologique qui profite de cet habitat de bois mort et ils sont en train de disparaître parce qu'on a cette tendance à vouloir faire propre et à enlever tout le bois mort et à le mettre loin de nous.
Les bénéfices pour ce que vous produisez, qu'est-ce que vous produisez, fruits, légumes?
Alors, je fais des cultures que d'été.
D'accord.
Donc, je fais des tomates, des physalis, des patates douces, des poivrons. J'ai du raisin de table aussi.
Pour en faire bénéficier justement les fruits et légumes que vous produisez. Quels sont les bénéfices pour ces produits justement de l'entretien de l'arbre, de, vous l'avez dit, de laisser le bois mort, les feuilles.
Alors du coup sur ma parcelle, moi j'entretiens des trognes dont je broie le bois. Et en fait, ça se met en surface au sol et ça sert à la fois de paillage pour éviter l'enherbement et ça nourrit aussi énormément le sol. Quand le bois se décompose, il crée de l'humus. Et l'humus, c'est un des éléments clés de la fertilité des sols. Ça retient l'eau, les nutriments, ça structure le sol pour le rendre grumeleux et fertile.
Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous parler des services écosystémiques que l'arbre nous rend depuis la nuit des temps? Je pense que ça serait pas mal de les rappeler, étant donné qu'on enlève beaucoup d'arbres.
Mmh.
Et est-ce qu'il serait peut-être pas bon de rappeler les intérêts majeurs que l'arbre représente en termes de services écosystémiques?
On a combien de temps? On a eu 2 jours devant nous
ce que tu peux,
non,
de façon synthétique.
À savoir que du coup, l'arbre, c'est des machines à faire de la photosynthèse. Ça capte du CO2, ça le stocke en soi, ça évapore aussi beaucoup d'eau. Et ça, ça a un rôle essentiel dans le cycle de l'eau, dans le fait de faire remonter les nappes phréatiques. Ça capte aussi de l'eau qui se condense sur les feuilles et qui revient. Il suffit de voir une journée d'été en plein soleil, quelle est l'atmosphère qu'on a sous un arbre comparé à une surface bitumée.
Donc on peut dire que c'est le meilleur climatiseur qui existe sur Terre.
Ah oui, je suis convaincu de ça, qu'en termes de régulation, il fait ça très bien et pour très peu de frais.
Tu parlais de cette capacité à transpirer des arbres et du coup à produire de l'eau. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur justement cette évaporation et son influence sur du coup, la biodiversité, le maintien d'une fertilité, le maintien d'un sol frais, humide, en tout cas pour entretenir... entretenir la vie.
Je me souviens plus exactement de quel volume. En fait, on oublie souvent qu'il y a un tout petit cycle de l'eau. C'est-à-dire que l'eau qui s'évapore des végétaux, elle se recondense et elle revient, elle se redépose à la surface ou sur les strates de végétation qui sont en dessous. Et donc, il me semble qu'il y a plus de la moitié de l'eau qui est réutilisée avant même de repartir dans l'atmosphère suite à l'évaporation des végétaux. Donc... à l'échelle de nos écosystèmes, c'est comme s'il y avait la moitié de l'eau qui est retombée sous forme de pluie, naturellement.
En tout cas, les études, et on le voit que de plus en plus de villes, optent pour une couverture végétale. Donc des arbres dans les villes, c'est techniquement, en tout cas, c'est sûrement la meilleure des technologies, ouais, si je puis dire ce mot-là, pour vraiment faire descendre la température du coup, dans les villes, quoi.
Dans les villes, dans les champs, dans les jardins, dans les bords de route, partout.
Et petite question sur l'effet du microclimat dans une région. Est-ce que tu penses que si tout le monde, en tout cas si un maximum de gens font l'effort de revégétaliser vraiment leur jardin, donc on stoppe la culture de la pelouse, hein, on essaye de faire pousser des couverts végétaux avec différentes strates de végétaux pour capter du coup plus de CO2, faire plus de biomasse. Est-ce que tu penses que si tout le monde s'y mettait un petit peu, donc ça peut même être sur un balcon, hein, il y a pas de... En fait, je pense que vraiment, il n'y a pas de lieu pour produire de la biomasse et pour capter du CO2. Est-ce que ça aurait une influence sur... Alors, je parle pas du pays entier, hein, mais je parle à l'échelle vraiment locale. Est-ce que ça pourrait avoir une influence sur le microclimat, local ?
Moi, j'ai tendance à être convaincu de ça. Et après, chacun, à son échelle, peut œuvrer pour... rajouter de la diversité, de la rugosité dans son paysage, chacun chez lui. Peut-être commencer par ne pas tondre toute l'herbe dans son jardin. On peut laisser des endroits où l'herbe monte un peu plus, aux endroits où on ne circule pas trop.
Ça, ça m'arrange.
On peut aussi réintégrer un peu d'arbres dans les jardins. Et il y a quelques études, oui, qui montreraient que par un maillage d'arbres continu dans le territoire, on pourrait faire revenir la pluie. À savoir que certains pensent que c'est parce qu'il y a des arbres qu'il pleut, et non pas parce qu'il pleut qu'il y a des arbres.
Ah, c'est subtil, ouais.
Il faudrait reboiser, remettre vraiment du végétal et de l'arbre.
Ouais.
Donc la prairie, c'est bien, mais l'arbre, c'est, je pense, quand même mieux pour avoir de l'eau qui arrive de façon plus régulière et aussi pouvoir sûrement avoir des capacités à récupérer l'eau dans le sol via la porosité qui est créée par les systèmes racinaires. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur justement cette capacité que les arbres ont à récupérer l'eau, à sûrement la filtrer, à la nettoyer, sortir du béton, en gros, débétonner un petit peu pour permettre à l'écosystème de mieux se porter.
Je crois que tu as tout dit là, Rudy. Mais effectivement, l'arbre, par ses racines, il structure le sol, il permet à l'eau de s'infiltrer. Et toute l'eau qui ne ruisselle pas, c'est de l'eau qu'il y a en moins dans les rivières, dans les inondations, dans toute l'eau. Le meilleur endroit pour stocker de l'eau, c'est dans le sol. Et c'est l'endroit le plus simple. Et
donc techniquement, s'il y a plus d'arbres, on a des capacités à gérer l'eau.
À tamponner les excès et les manques d'eau. L'arbre, il va aller remettre de l'eau du fond des nappes phréatiques en évaporant dans sa végétation, dans le système. Il va servir aussi à infiltrer les excès d'eau à certains moments.
Oui, on dit qu'il faut remettre l'église au centre du village, il faut remettre l'arbre.
Et du coup, concernant la biodiversité, donc l'arbre qui est quand même à la base d'énormément de services écosystémiques, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur... ta vision
Moi, je voudrais rappeler que la biodiversité, c'est une bataille qui se joue au mètre carré. Chaque mètre carré compte, chacun peut à son échelle, modifier un petit peu, améliorer un petit endroit. Et c'est vraiment l'ensemble de ces petits maillages qui sera bénéfique pour multiplier les habitats et les ressources pour toute cette biodiversité.
Conclusion, super. Ça. Florian Obricard, merci beaucoup. Vous êtes donc, je rappelle, maraîcher à Bretagne-Marsan au jardin d'Ortus. Comment on peut bénéficier, de votre savoir, puisque vous êtes formateur, c'est ça ?
Alors cet hiver, je vais faire quelques petits ateliers qui seront à prix libre que vous pouvez retrouver sur la page des jardins d'Ortus, la page Facebook. Et au programme, il y aura un petit peu de taille de bois vert, un peu de physiologie des arbres et à nouveau de la conduite en trogne, de la haie plessée et de la lecture des arbres fruitiers.
Voilà pour C'est pas l'arbre, autour de l'arbre, avec Florian Rubricard, d'un arbre à l'autre, hein, on va laisser, ça va être la période du sapin, bientôt. Je crois qu'on se retrouvera avant Noël, je crois que vous viendrez nous faire un petit coucou.
Je reviendrai.
D'accord, et Florian, merci en tout cas d'être passé nous voir.
Et merci à vous.
Et merci pour votre travail et votre passion.
Un grand merci à toi et merci.
Merci.